Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cet épisode 50 du balado Sortie de zone. Avec nous, nous avons l'occasion de parler avec Guillaume Lefrançois de La Presse qui est là. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Simon-Olivier Larange qui est là. Salut Simon-Olivier.
Salut Jérémy.
Mickaël Lancette. Salut Mickaël.
Salut tout le monde.
Messieurs, le Canadien est toujours vivant, comme le disait si bien Jerry Boulet, toujours vivant. Eh bien, le Canadien trouve le moyen de gagner un premier match dans cette série finale de la Coupe Stanley, une victoire de 3-2 en prolongation, gracieuseté de Josh Anderson. Messieurs, dans un premier temps, faisons un tour de table pour votre analyse, votre impression de cette performance du Canadien et du Lightning de Tampa Bay. Guillaume, qui est du côté de Tampa Bay d'ailleurs, raconte-nous, qu'est-ce que tu as vu de ce match-là, de cette performance du Canadien?
Ben, moi, je retiens ça comme étant peut-être le deuxième moment ce printemps où j'étais absolument convaincu que c'était fini pour le Canadien. L'autre moment étant la fameuse prolongation du sixième match contre Toronto où le Canadien était resté dans son territoire à se défendre jusqu'à ce que Kotkaniemi marque. Et puis hier, en regardant la première période d'abord, puis ensuite de ça, pendant la pénalité de 4 minutes à chez Weber, ça sentait drôlement la fin. Et puis donc pour une deuxième, je trouve que c'est vraiment la deuxième fois que cette équipe-là est... T'sais, je veux dire, oui, on peut dire que de façon générale, le Canadien était au bord du précipice là, hier, de façon générale, mais disons que de façon plus précise, il y a des moments où ça aurait vraiment pu basculer. Puis j'ai inclus le début de match là-dedans, parce que je sais pas si, je suis vraiment pas sûr que le Canadien aurait pu se remettre d'un autre début de match où le Lightning marque 2 buts rapidement, là, par exemple. Donc encore une fois, cette équipe-là qui évite la mort au moment où on pensait que tout était fini. Alors ça revient au travail de Carey Price là, qui a joué son meilleur match de la série.
Simon Olivier, ton côté?
Ben un peu dans le même sens où je dois dire qu'avec le quand Shea Weber a copié sa punition 4 minutes avec 1 minute à jouer en troisième période, dans ma tête c'était clair et net que Tampa en profiterait. Je voyais pas, tu sais, autant le Canadien avait bien fait en désavantage numérique dans les 3 occasions précédentes dans la rencontre, je les voyais pas contrer Tampa pendant aussi longtemps, dans un moment aussi important avec tout ce qui était à l'enjeu, que tu sais, si Tampa marque, ils ont la Coupe Stanley, là, c'est aussi simple que ça. Puis sais-tu quoi, je me demande si c'est justement chaque fois qu'on pense que le Canadien c'est terminé, ben chaque fois évidemment, on connaît le passé là, mais dans ces séries-là ou même des fois pendant la saison, au moment où on n'y croyait plus, ben Colin, cette équipe-là est arrivée pour nous surprendre. Pis c'est encore arrivé hier avec une performance magistrale en défense du groupe d'infériorité numérique en prolongation. Puis tu sais, quand on souvent les joueurs parlent de ça, qu'une infériorité numérique ou même un avantage numérique, c'est au-delà de marquer ou de pas se faire marquer, c'est aller chercher du momentum. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis tout de suite après la punition, le Canadien marque, et je pense que peut-être que ça pourrait avoir un effet d'entraînement pour les prochains matchs. Fait que surpris et impressionné, je dirais.
OK, Mickaël, ton côté, penses-tu que ça aura un effet d'entraînement?
Ben peut-être, en fait on le souhaite, mais moi ce que, tu sais, il faut jamais sous-estimer l'effet, la puissance de l'énergie du désespoir. Tu sais, une équipe là qui se bat pour sa survie là, quand tu peux plus perdre. Puis hier, j'aimais ça parce que je trouvais que le Canadien ne jouait pas pour ne pas perdre justement, mais jouait pour gagner. Et ça, on n'avait pas vraiment senti ça depuis le début de la série. Tu sais, c'est une bonne équipe de hockey de l'autre côté, puis le Lightning réussissait à des moments clés du match de faire payer chèrement les erreurs du Canadien dans les premiers matchs. Puis dans le match d'hier, je trouvais que le Canadien a retrouvé sa arme ou sa façon d'attaquer des matchs et tout ça. Price a été sensationnel. Il a été très bon dans le match d'hier. Simon-Olivier parlait de la prestation de la défense du Canadien. C'est vrai. Puis lui, s'est inscrit là-dedans. Il a été très solide. Puis tu parlais de toujours vivant. Là. Moi, je vais faire un lien avec un autre classique d'Offenbach. Aïe, aïe. Ça a fait mal pour les gars du Lightning hier soir. T'sais, ils se sont fait brasser. Ils se sont fait malmener. Puis je pense que c'est peut-être porteur de quelque chose qui peut sourire aux Canadiens dans les prochains matchs, on verra.
Mais messieurs, soyons honnêtes, là, il était temps que le Canadien décide. Je dis pas que on a manqué de respect hier, là, mais il était temps qu'on arrête de regarder patiner le Lightning de Tampa Bay, parce qu'on était sur les talons dans les 3 premiers matchs. On créait beaucoup de revirements, on donnait la rondelle à Tampa Bay, ce qui était le cas quand même hier. Pas moins de 20 occasions, le Canadien a donné la rondelle au Lightning, comparativement, je pense, à quoi, 26 dans le match d'avant. Mais il était temps de voir le Canadien commencer à brasser un peu casser la soupe un petit peu. Mais le début de match, ne regardait pas, mais pas du tout comme ça. Guillaume, t'en as parlé un peu. Écoutez bien, là, c'était 8 lancés contre 0 à 12 minutes 16 de la première période. Fait que donc, ça, ouais. Je veux dire, le Lightning a frappé avec l'éclair le Canadien en début de match. La seule chose, c'est qu'on n'a pas marqué. Là.
C'est ouais, c'est ça. C'est effectivement bien résumé. Puis tu sais, je pense que c'est là que ça rend beaucoup service quand tu as des joueurs. Tu sais, ce qu'ils appellent en anglais, là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de traduction parfaite en français, mais tu sais, ils disent en anglais un joueur qui a des game-breaking abilities, qui est un game-breaker, tu sais, des joueurs d'impact qui ont le talent pour faire changer un match là, en un seul jeu. Et c'est ce que le Canadien a avec Nick Suzuki, tu sais. Et c'est ce que Suzuki a fait, dans le fond, avec un super beau jeu pour préparer le but de Josh Anderson. Alors c'est là que ce talent-là que le Canadien est en train de développer a rapporté, parce que non, il n'y a aucun doute, là, la première période terminée, puis tu disais OK, c'est 1-0 Canadien, mais ça indiquait pas du tout l'allure de la période et ça ne devrait pas être ça. Mais c'est ça, c'est que là tu te ramasses avec des joueurs qui ont ce talent-là, avec une seule occasion, un seul jeu, de faire basculer un match comme ça s'est vu en première période.
Et quelle occasion quand même, celle de Suzuki, là, puis on va parler de Josh Anderson dans quelques instants, parce que c'était vraiment le héros du match, lui qui a marqué à deux reprises. Mais Nick Suzuki, là, excusez-moi messieurs, là, mais je pense que là, on est en train de voir un joueur qui est en train de prendre son envol dans l'organisation du Canadien. Quand ce gars-là est impliqué, il a tout. Il est capable de jouer offensivement, défensivement, il s'implique physiquement également. Sur les cercles de mise en jeu, évidemment, ça va s'améliorer au fil des prochaines années, là, mais clairement, on est en train de trouver avec Suzuki le pilier à l'attaque chez le Canadien de Montréal. Peut-être que je m'emballe, mais je sais pas ce que vous en pensez. Simon-Olivier, t'en penses quoi, toi?
Ben, en fait, s'il y a des gens qui avaient encore des questions à ce sujet-là, j'imagine qu'ils n'en ont plus. Évidemment, il y a les plus ardents défenseurs des Espérés que Kotkaniemi. Moi, je suis ni défenseur, ni pour, ni contre lui, si on veut, mais ce qui est évident, c'est que Suzuki est très en avance sur lui présentement. Puis tu sais, à l'âge où il y a encore un potentiel à aller chercher sur le plan de la performance, sur le plan physique. Et hier, moi, ça passe à Anderson, qui est évidemment magnifique, mais aussi d'autres séquences. Je pense qu'il s'est avancé à un contre un contre de Sergachev. Oui. Il partait quasiment, tu sais, il était en mauvaise posture, Suzuki, tu sais, il était pas très dynamique à la ligne bleue à ce moment-là, il se retrouvait avec la rondelle, puis il l'a déjoué, puis il allait chercher un très bon tir sur Vasilevskiy. Fait que c'est vraiment, j'ai été impressionné par sa combativité. Je pense qu'il nous montre, peut-être qu'on voyait moins en saison, à quel point il peut faire une différence tout seul. C'est-à-dire que je pense pas que le Canadien veut que ça s'attende à lui, est-ce qu'il gagne des matchs à lui tout seul, mais à quel point justement il peut arriver puis être une influence, justement, quand ses compagnons de trio peut-être sont vraiment pas autour de lui ou connaissent un match plus ordinaire. Et quand on voit comment justement ce que Caulfield peut faire avec lui, même Anderson hier soir qui avait un bon match avec eux, je pense que c'est un centre qui va donner de très belles saisons.
Il faut, et Michael, je veux t'entendre là-dessus, là, mais il faut donner crédit quand même à Dominique Ducharme qui a changé les trios. On avait amené Josh Anderson avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ce trio-là a été dynamique. Ce trio-là a permis à Josh Anderson de marquer deux fois. Sinon, avec Keke, écoute, ça menait à rien. Là. Ça allait nulle part, cette histoire-là.
Ouais, exactement. Et puis que ces gars-là soient capables d'avoir ce niveau de performance-là. T'sais, on est en finale de la Coupe Stanley, les gars. Là. On n'est pas en début de saison ou en début de série. Puis c'est tout un club de hockey l'autre bord. Puis que ces gars-là soient capables d'avoir ce niveau de concentration. Il va par fraction de seconde. Là. Une petite inattention ou un petit détail, ça fait toute une différence. Puis que ces gars-là soient capables d'entrer dans cette danse-là, d'être aussi à l'aise, de faire de gros jeux comme ils le font. Moi, je suis d'accord avec toi. Je partage ton enthousiasme. C'est un gars qui, on dirait, puis on n'a peut-être pas fini encore de découvrir c'est qui vraiment Nick Suzuki, même si ça fait quand même plusieurs années qu'on le suit, là, puis qu'on l'a à l'œil et tout ça. On dirait qu'il réussit quand même tout le temps, on dirait, à nous surprendre, à repousser un petit peu la limite plus loin. Puis, effectivement, il faut donner du crédit à Dominique Ducharme là-dessus, parce que la décision en tant que telle de faire de la place aux jeunes, puis il y a eu une statistique hier qui était quand même intéressante là, sur le fait que le Canadien, c'était seulement la deuxième équipe dans les 25 dernières années à faire jouer 4 joueurs de 21 ans et moins en finale de la Coupe Stanley. Mais c'est pas rien. Là. Ça en dit long sur la confiance des jeunes au sein de la direction.
Il y a juste une petite chose que je voulais ajouter sur Suzuki. C'est que ce qu'on voit là, c'est en train de valider aussi que un côté de sa progression. Rappelez-vous, la saison dernière, la saison, dans le fond, là, de la pandémie, tu sais, le Canadien avait joué 71 matchs. Et puis, souvenez-vous, à la fin, tu sais, Claude Julien disait souvent, tu sais, il manque d'essence, tout ça, tu sais, il y a peut-être une petite baisse de régime, ça arrive, c'est une recrue, tout ça. Puis c'était tout à fait normal. Ensuite de ça, bon, ça veut pas dire que dès la deuxième année, c'est un problème qui va se régler. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent à des jeunes de heurter le mur, comme Claude Julien disait. Ben là, si on regarde, Suzuki a joué 56 matchs en saison, il est rendu à 21 matchs en série. Ça fait 77 matchs, ça fait l'équivalent d'une saison. Et puis, il a pas l'air d'un gars qui a heurté un mur. Là. Il a pas l'air d'un gars qui manque d'essence, il a pas l'air d'un gars à bout de souffle. Ça, c'est un signe très encourageant aussi pour dans sa progression pour le Canadien.
Et d'autant plus, depuis qu'il s'est fait dominer, souvenez-vous, avait fini un match à moins 3. Et le match suivant est arrivé avec une performance éclatante. On l'a vu être animé d'une énergie impressionnante sur la patinoire pour le Canadien. Messieurs, alors ça c'est Guillaume, j'imagine qu'il est du côté de Tampa Bay et la tempête a débuté là-bas, c'est ça? Non, mais il annonce une tempête, là. Vous avez une grosse orage.
Exact, mais là en ce moment c'est correct, il n'y a pas de précipitation encore, même le vent c'est assez tranquille, mais il annonce quand même de la bonne pluie pour ce soir. Puis d'ailleurs partout en ville même on distribue des sacs de sable aux gens, donc ça s'en vient, mais pour le moment c'est tranquille.
Mais rien qui peut mettre en péril le match de demain soir selon toi, Guillaume?
Je penserais pas. Comme c'est là, je vous ai la tu sais, comme par de toute façon, c'est que le gros de la tempête a l'air d'être plus dans la nuit de mardi à mercredi. L'aéroport à Tampa Bay va fermer donc mardi à 17h pour rouvrir mercredi à 10h. Donc, tu sais, c'est une espèce de fermeture par mesure de précaution. Mais non, c'est ça. À moins vraiment qu'il y ait un grave problème d'inondation, c'est peut-être la seule chose que je verrais qui pourrait mettre en péril, parce que l'aréna est sur le bord de l'eau et puis, bon, c'est ici, on est dans une baie. Donc, tu sais, puis c'est ce qu'on explique ici, c'est ça, c'est que les problèmes, c'est pas tant la force d'un ouragan, c'est pas tant les dommages là, causés par le vent ou des choses comme ça, plus que des problèmes vraiment d'inondation qui peuvent survenir ici. Donc, c'est encore dur à dire pour le moment, mais tu sais, je sens pas une grande panique en ville, donc j'ai comme l'impression que ça devrait aller. Là.
Bon. Je pense que la grande ironie serait que le match a lieu, mais que les participants ne puissent pas y aller parce qu'il pleut. Ça serait vraiment là, ça serait la série sous sommet, si on veut.
Bon, hey, messieurs, je veux qu'on prenne quelques instants pour revenir sur Dominique Ducharme, qui a fait des changements de trio, changements d'effectifs également, ajouté Jake Evans, Romanov Kulak qui remplaçait Merrill et Gustafsson, et Jake Evans qui a pris la place de Jesperi Kotkaniemi. Bon, la question que tout le monde s'est posée, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on a fait ça trop tardivement? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça au match précédent, pas le match d'hier, pour voir peut-être une nouvelle énergie? Qu'est-ce que vous en pensez, Simon-Olivier, de ton côté?
Je suis un peu mitigé. En fait, je les prendrais pas en bloc, dans le sens où je pense que les trois joueurs ont des profils différents, puis peut-être qu'ils répondaient à des besoins différents. Moi, personnellement, j'ai pas compris qu'Eric Gustafsson joue autant de matchs. Je crois que Jeff Petrie, sa blessure est pas complètement rétablie. C'est le premier match hier soir où il revenait sur la première vague d'avantages numériques. Il ne joue plus en désavantage. Il prenait vraiment beaucoup moins de tirs. Fait que je pense que, justement, on gardait Gustafsson comme police d'assurance, mais rendu en finale à la Coupe Stanley comme ça, je comprenais pas qu'un joueur aussi maladroit ait autant de chances de surprendre. Et je pense que le but de Tyler Johnson, son deuxième du match, a été celui de trop dans le match numéro 3. C'est peut-être ce qui a coûté son poste. Dans le cas de Kanemi, tu sais, le Canadien avait eu un bon match en attaque dans le match numéro 2. Et c'est justement les fameux revirements qui l'avaient coulé, puis le manque d'opportunisme, puis d'exécution. Fait que, tu sais, je pense pas que Kanemi avait été un problème dans cette rencontre-là. En tout cas pas. T'sais, si le Canadien cherchait plus d'attaque ou à concrétiser davantage, je pense pas qu'à rentrer Evans, pour lui, c'était nécessairement ça à ce moment-là. Cependant, Kotkaniemi a connu un très mauvais match numéro 3. Et visiblement, on voulait créer deux lignes pour plus défensive, pour réussir à contrer les attaquants du Lightning. Et c'est ce qu'on a avec la ligne de Evans et celle de Dano maintenant. Je trouve ça malheureux pour Kotkaniemi. Je pense que ça reste un bon joueur, un très bon joueur d'hockey. Puis je pense qu'il va en être un très bon. Mm-hmm. Mais présentement, je souscris un peu à ce que Ducharme disait, que pour avoir la meilleure formation possible hier soir, ben je pense pas que Kotkaniemi en faisait partie nécessairement. Puis Kulak, ben moi, j'étais pas contre John Merrill nécessairement. Je pense qu'il faisait du boulot honnête à son pour ce qu'on lui demandait. Moi, je Personnellement, j'aime bien Kulak. Je trouve que c'est un bon patineur. Il manie bien la rondelle. Pour un genre de 13 minutes, je pense que c'est quelque chose qui se pouvait. Mais tu sais, lui ou Merrill rendu là, je pense pas que c'était ça qui faisait une grosse différence dans la formation.
Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre les propos de Philippe Dano hier quand on le questionne à savoir ce qu'il pensait de l'arrivée de Jake Evans dans la formation. Puis il disait, hey, bon move. T'sais, lui, il voulait, oh, ça fait du bien parce que lui est capable de prendre des mises en jeu. On le sent plus responsable défensivement. Je pense que ça, c'est important aussi. Tu sais, quand t'inspires pas confiance défensivement, dans le cas de Kéké, ça met un doute dans la tête du monde alentour de toi. Puis là, d'une situation où tu fais face à l'élimination, t'as pas besoin de ça. T'as besoin de savoir que c'est un gars qui est fiable, qui s'amène. Et juste dire, dans le cas de Romanov et Kulak, là, ça fait du bien d'avoir des défenseurs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des défenseurs du Canadien prendre la rondelle derrière le filet et patiner avec la rondelle, sortir avec la rondelle au lieu de faire le fameux D2D où tout le monde et ses talons là, arrêter. Là. Ça, on avait besoin de ça. Et c'est ce qu'on obtient avec Romanov et Kulak. Qu'est-ce que t'en penses, Mickaël?
Ouais, puis être capable de mettre la rondelle sur le filet aussi. Là.
Oui, aussi,
c'est pas nécessairement que le tir soit puissant, mais d'être capable de placer la rondelle, tu sais, avec la dynamique du Canadien, dans les dernières années, c'était pas tous les défenseurs qui étaient capables de faire ça. Puis là, on le voit avec Romanov, lentement mais sûrement. Je pense que tu sais, il va prendre confiance aussi avec son lancer, mais c'est le fun de voir ça. Puis effectivement, moi, j'ai noté la même chose que toi par rapport aux sorties de territoire, à transporter la rondelle. On aime ça, voir ça. C'est rendu ça, le hockey. La transition se fait comme ça. Il y en a des tonnes. Il y en a de plus en plus des défenseurs qui sont bons comme ça avec la rondelle. Puis le Canadien en a pas beaucoup. Fait que c'est le fun de voir qu'un gars comme Romanov prend cette confiance-là.
Oui, mais, puis John Merrill est absolument catastrophique quand tu as la rondelle sur son bâton. Là, il fait du travail. C'est un bon joueur sans la rondelle, là, comme Jacques Martin les avait dans le temps. Mais avec la rondelle, c'est pas sa tasse de thé. Là.
Ça devient complexe un peu en finale de la Coupe Stanley quand ça va mal avec la rondelle. Messieurs, et Guillaume, je commence avec toi. Je veux savoir une chose. Là, hier, dans le match d'hier, c'est le fun, c'est cute, le Canadien a gagné en prolongation, mais encore une fois, beaucoup de pénalités. C'est 5 avantages numériques qu'on a donné au Lightning de Tampa Bay, dont 2 minutes 59 en prolongation pour débuter la prolongation. À faire ça, à un moment donné, le Canadien va se brûler, là. Tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Guillaume, qu'est-ce que tu vois dans cette situation-là?
Ben, il y a absolument aucun doute. Puis surtout, tu sais, je disais, non, le Canadien a pas donné de but, mais t'as eu Brayden Point qui a frappé le poteau, puis c'était un poteau franc, tu sais, là, un tic-tac-toe, c'était magnifique, là, comme jeu, là, tu sais. Donc ça, c'est ça, je veux dire, 19 fois sur 20, c'est un but là, ce que Point a fait là. Edman, Kucherov ont eu des super occasions de tir. Donc tu sais ça a nécessité du gros travail de presse, ça a nécessité les poteaux aussi. Alors tu sais c'est quand même des indicateurs que c'est pas comme si le Lightning avait passé les 5 avantages numériques à être désorganisé, à pas être capable d'organiser une entrée de zone. Tu sais, le Lightning a passé du temps en zone du Canadien, a épuisé le Canadien, a généré du momentum avec ça. Donc il y a aucun, tu sais, c'est le genre de performance qui laisse croire que ils se feront pas blanchir éternellement, puis que tu sais au prochain match mercredi, peut-être qu'ils vont juste avoir besoin d'un ou deux avantages numériques cette fois-là pour marquer. Donc il y a aucun doute que le Canadien doit être prudent puis trouver le juste milieu là entre être aussi robuste qu'il a été hier et éviter de donner le match à Tampa Bay en avantage numérique.
Simon Olivier, ton point de vue là-dessus?
Ben, en fait, j'abonde dans le même sens. C'est surtout que, tu sais, le Canadien, je pense que l'unité d'infériorité numérique s'est vraiment trouvée en série, dans le sens qu'on a eu une très bonne saison, une saison ordinaire en infériorité numérique, le Canadien, cette année, alors qu'en série, vraiment, tout fonctionnait, en tout cas. On profitait beaucoup du fait que les avantages numériques adverses ne fonctionnaient pas. Toronto, ça roulait pas malgré le grand talent des joueurs. Même chose Winnipeg, même chose Vegas. Tout à coup, on est contre une machine qui tourne. Puis c'est une note que je faisais dans mon texte ce matin. Tampa Bay tourne présentement en série autour de 33-35% d'efficacité en avantage numérique. Mais ça veut dire qu'un soir de 5 avantages numériques, c'est 1 ou 2 buts. Là. Fait que 0 en 5 hier, c'est une anomalie. Ça va pas se répéter souvent, cette anomalie-là. Pas avec les joueurs qui sont sur la glace. Je pensais à la réflexion à mon collègue Richard Labbé. On était sur la galerie de la presse hier soir. Puis en prolongation, il y avait l'unité de 5 du Lightning et Tampa Bay. Il y avait potentiellement 3 à 4 futurs membres semblent la renommée sur la glace. Là. T'sais, avec Stamkos, Edman, Kucherov, Point et Cheverly dans une moindre mesure, mais je veux dire, c'est une unité élite. Là, fait qu'il faut arrêter de leur donner du temps de glace parce qu'ils vont se réveiller.
Non, clairement, et ça va faire mal aux Canadiens. Mickaël, je t'amène sur si tu prends des pénalités, c'est que le jeu, tu étais le premier à le mentionner, le Canadien avait un jeu plus robuste. Et là, hier, moi, je regardais Joel Edmondson et Shea Weber et je les ai appelés les Badass Brothers. Hier, c'était... Écoute, ils étaient en mission, les gars. Hier, ça frappait. Ça vient avec ça aussi. Si t'amènes le jeu physique, il y aura des pénalités.
Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis faut que tu vives avec dans un certain sens. T'sais, rendu là, c'est un choix de, c'est un plan de match ça là. Je pense que ça fait partie de. Puis la brigade défensive du Canadien, elle est bâtie un peu dans ce moule là. On s'attend à cette présence physique là des gars des défenseurs du Canadien. Fait, mais c'est sûr que tu dois t'ajuster. Tu sais, quand t'as le jeu de puissance du Lightning contre toi, je pense qu'il faut que tu tiennes ça en considération. Mais marcher sur une ligne, tu sais, sur une ligne de fer comme ça, c'est un Nord, là, puis ça, c'est pour ça que l'expérience finit par comme donner une certaine légitimité à ton style de jeu, puis faut que tu t'ajustes selon l'arbitrage. C'est complexe, c'est très complexe, c'est une lame à deux tranchants. Mais je trouve qu'ils l'ont bien fait. C'est sûr qu'il y a des pénalités qui vont avec, mais moi je pense que dans le cas du Canadien, ils sont prêts à accepter ça. Tu sais, s'ils laissent patiner les gars du Lightning puis ils laissent aller là, ça sera pas beau. Là. Moi je pense que c'est une des facettes du Canadien, ils doivent l'exploiter, mais c'est sûr qu'ils doivent, il faut essayer d'être prudent, ben être intelligent à travers tout.
Mais je vais vous dire, chez Weber avait dans le viseur, dans la mire plutôt. Avait Braden Point, là, c'était pas drôle. Là. Hey, Braden Point, c'est ramassé. Aïe.
Oui, mais justement, je trouve quand même qu'ils l'ont, tu sais, oui, ils ont pris des pénalités, mais je pense que ça reste quand même le genre de pénalité qu'ils ont prise. C'est des choses, je pense, qui se corrigent sans nécessairement enlever à la robustesse dont ils ont fait preuve. Tu sais, Joel Edmondson, sa pénalité pour coup de bâton, je veux dire, c'était simplement un geste il réfléchit, puis ça, en plus, c'était pas non plus peut-être la pénalité la plus franche là, qu'on a vue. Chez Weber, bâton élevé, je veux dire, c'est une lutte pour la rondelle à la mise au jeu, ça arrive. Les seules pénalités peut-être qui auraient pu être évitées en défense, c'est celle de Sharrock et Petrie quand il y a eu la grosse mêlée, mais ça, bon, ça n'a pas donné d'avantage numérique à Tampa, mais ça a fait en sorte que le Canadien a été privé de deux de ses défenseurs top 4. Mais tu sais, ça, c'est peut-être le genre de moment où il aurait fallu contrôler un petit peu plus les émotions. Mais tu sais, pour le reste, ils ont quand même réussi. C'est pas vraiment des pénalités qui sont liés au fait d'avoir joué avec robustesse contre Tampa.
Hier, après le match, j'écoutais les propos de Brendan Gallagher qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Je l'ai pris en note immédiatement. Il a dit, tu sais, il faut accepter le fait que ce sera jamais facile ici. J'ai l'impression que là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail. En fait, on sait déjà qu'il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, son visage témoigne du travail qu'il a amené sur la patinoire. Mais quand un gars dit ça, c'est parce que les gars sont prêts à souffrir, là, sont prêts à tout donner, là, clairement. Quand tu dis, il va falloir admettre qu'ici, là, ça sera jamais facile. Il n'y en aura pas de facile, si c'est le cas pour le Canadien. Messieurs, je veux vous entendre là-dessus sur l'état d'esprit des joueurs présentement, selon vous, chez le Canadien. Simon-Olivier, je vais commencer avec toi.
Ce matin, donc, je couvrais la disponibilité média du Canadien, qui était assez tôt parce que l'équipe partait pour Tampa. Et il y avait Corey Perry qui était là, puis ça faisait longtemps... plusieurs jours ou semaines que j'avais pas senti Perry aussi détendu, aussi serein, je dirais. Je pense qu'on est à cette victoire-là, évidemment, a fait du bien pour des raisons évidentes, mais je pense qu'on est à une bonne place, si je peux m'exprimer comme ça. Tu sais, on est vraiment dans un esprit où on n'a plus vraiment rien à perdre, dans la mesure où, tu sais, ils n'ont plus le choix. Tu sais, ils n'ont plus du tout le choix. Puis, ce qu'il disait un peu, il disait, tu sais, moi, demain, ce que je vais dire à mes coéquipiers, tu sais, je suis passé par, tu sais, lui, il a tout vécu, Perry, tu sais, je vais leur dire, tu sais, c'est du hockey. Amusez-vous, puis ça va être ça. Puis je pense que c'est un peu le mood qu'on a adopté. Puis par rapport à ce que Gallagher disait que ce ne sera jamais facile, tu sais, ce qu'on voit, les joueurs le savent. Là, c'est-à-dire que les joueurs savent qu'ils peuvent rivaliser avec Tampa Bay, mais ils savent également que ben, Tampa Bay a peut-être les 5 ou les 7 meilleurs joueurs de cette série-là. Tu sais, Gallagher, ça a été un marqueur de 30 buts. Ben c'est pas le même genre de joueur que Kucherov ou Point. C'est un joueur qui marque ses 30 buts dans le demi-cercle, sur le troisième retour, ou en se mettant le nez dans le trafic, tout ça. C'est pas un gars qui a fait sa carrière sur une vie facile. Tu sais, lui, c'est ça son état d'esprit depuis qu'il joue au hockey, Gallagher. Et je pense qu'on a, tu sais, ça fait des petits... Puis on se dit, bon, ben, tu sais, si on est pour aller jusqu'au bout, ben, il n'y en aura aucun cadeau, puis on peut pas juste se fier sur notre talent, parce que si on fait ça, ben, on va perdre, parce que l'autre équipe en a davantage. Fait que je pense qu'il y avait un peu de ça là-dedans, puis je pense que c'est peut-être ce qui pourrait aider le Canadien à causer une surprise.
Guillaume, de ton côté?
Ouais, ben, l'état d'esprit, moi, c'est surtout après les défaites à Tampa où je m'attendais particulièrement à la deuxième, là, tu sais, qui avait été don de encaisser de façon crève-cœur. Puis déjà là, je m'attendais à ce que les joueurs soient abattus, tout ça. Puis c'était pas ce que j'avais. Donc, tu sais, oui, ils ont perdu le match après ça, mais c'est ça, tu sais, déjà assez tôt dans la série, on pouvait quand même sentir que c'était qu'ils se laissaient pas abattre finalement par les gros changements de momentum qui peuvent survenir dans une série. Alors, je pense que c'est peut-être cet état d'esprit-là qui les a aidés justement à garder la tête froide là, dans le scénario d'hier à 0-3 puis à connaître un mauvais début de match. Donc, il y a peut-être quelque chose là, une espèce de force mentale là, de cette équipe-là qui s'est sans doute formée un peu contre Toronto au premier tour et qui les aide, je pense, à s'accrocher.
Michael, moi, je pense aussi, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand je vois Carey Price qui regarde le but de Josh Anderson, fait absolument rien, se tourne de bord, prend sa bouteille d'eau et s'en va comme si on s'en allait à un arrêt de jeu, à une pause publicitaire, vraiment, d'après moi, ça montre le calme de cette équipe-là. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, c'est ça, puis exactement. Puis là, il rentre dans une zone payante, le Canadien, dans cette série-là, dans le sens que quand c'est 3-0, tu sais, la pression est sur le club qui est 0-3 et qui se bat pour sa survie. Là, après ça, ben là, écoute, tu serais de l'arrière 3-0 dans la série, là. Fait que tout le monde te voit perdant. Là, tu t'en vas sur la glace de l'adversaire qui, lui, va vouloir soulever la Coupe Stanley devant ses partisans, veut pas retourner sur la route dans un match numéro 6. Fait que, tu sais, pour le Canadien, là, à ce moment-ci, là, on va gérer ça. On dit, OK, là, nous autres, on peut commencer à avoir du fun en ce moment. Puis, on va voir ce que ça va mener le Canadien. Le Canadien était négligé, là, dans cette série-là. Donc, peu importe qu'il y avait de l'enthousiasme en ville ou pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui disait, tu sais, le Canadien doit gagner cette série-là. Puis, c'est l'équipe favorite. Pas du tout. Alors, moi, je pense que c'est une équipe qui est calme, oui, détendue, qui a du caractère. On l'a vu. Quand elle fait face à l'élimination dans les séries de cette année, elle s'est super bien comportée. Est-ce que ça peut être encore le cas dans un autre match ultime comme ça à Tampa? On va devoir suivre ça. Mais moi, je pense qu'ils viennent de rentrer dans une zone où est-ce que là, ils ont mis un petit peu de pression sur le Lightning. Je dis pas que, tu sais, Tampa est au pied du mur, mais ils ont mis un petit peu plus de pression sur le Lightning. Ils vont devoir closer le deal, comme on dit dans le prochain match.
Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour aller chercher un peu de confiance chez les Canadiens. Et Josh Anderson, après le match, a dit hier, on est en bonne position. Hey, c'est 1-3 dans la série.
C'est ça.
On est en bonne position. Bon, ben parfait. On a hâte de voir ça dans le prochain match. Messieurs, on va s'arrêter, on va faire une très courte pause. Là, on a parlé du Canadien de Montréal et au retour, on va aller voir du côté du Lightning de Tampa Bay. Est-ce que Tampa peut jouer vraiment mieux que ça? On en parle au retour. Restez avec nous. On est de retour à cet épisode 50 du podcast Sortison en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon, Olivier Lorange, les deux de la presse, et Michael Lalancette qui sont avec nous. Messieurs, hier, Tampa Bay a tout fait sauf marquer un but. Est-ce que ce club-là peut vraiment être meilleur? Guillaume, je commence avec toi.
Ben, je pense honnêtement que non, je crois pas que ce soit le moment des grandes remises en question chez le Lightning. Tu sais, aux chances de marquer, là, à 5 contre 5, chances de marquer, selon l'excellent site Natural Stat Trick, c'est 14-4 pour Tampa Bay. Je parlais de l'avantage numérique tantôt, où il y a eu également des chances de marquer. Tu sais, je veux dire, ça va arriver, là, des matchs que le gardien soit bon, que, justement, tu sais, regarde, je pense qu'ils ont 3 poteaux en tout pendant le match. Ils ont eu un bon début de match. Ils ont été disciplinés. Ils ont vraiment coché beaucoup de cases, disons, qu'il faut faire là, pour l'emporter, et ça a pas donné. Donc, tu sais, je pense pas que c'est le temps des remises en question, je pense pas que c'est le temps de douter, mais c'est le danger qui les guette par contre, c'est-à-dire si justement à cause de cette défaite-là, il y a un doute qui s'installe à cause de, en voyant Carey Price a retrouvé ses airs des 3 premiers tours, des choses comme ça, si l'équipe se met à douter, là, peut-être qu'elle va être dans le pétrin, mais je pense pas qu'on doive réécrire le plan de match et vraiment pas. Là, ils ont joué quand même un bon match.
Ouais, Simon Olivier, je veux savoir, est-ce que Carey Price peut entrer dans la tête des joueurs du Lightning comme il le fait depuis le début des séries? Simon Olivier?
Bon, est-ce qu'on m'entend?
Oui, on t'entend, vas-y.
Comment ça se fait qu'après un an et demi de pandémie, on accroche encore le piton mute? Je suis désolé pour le temps. Dans les 10 dernières secondes, j'ai peut-être dit mes meilleurs contenus de la saison. Quelle malchance. Bon, alors, la réponse à la question était, je pense que oui, j'ai trouvé qu'en fin de match, il y a peut-être eu des indices, je trouve, parlant d'avantage numérique en prolongation. Je voyais un gars comme Kucherov précipiter des lancers, lancer hors cible. On sentait que un gars comme Stamkos aussi, un petit peu moins sharp, si on me prête l'expression. Fait que, tu sais, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que Price est rentré dans leur tête, parce que quoi que pense Josh Anderson, le Lightning est encore en plein contrôle de cette série-là. Et tu sais, on s'entend, le match numéro 5, là, tout le monde est en feu à Montréal, mais le match numéro 5 peut être complètement du côté du Lightning et une victoire relativement facile. Les gars de la Coupe Stanley, ça peut s'arrêter vite. Mais je pense que justement, hier, Price a envoyé un certain message de dire justement cette série-là est pas finie. Et de l'autre côté, moi, je veux souligner, je pense pas que Vasilevskiy n'a pas été bon, mais les matchs 3 et 4, Vasilevskiy a pas été exceptionnel. Dans le match numéro 3, le but que donnait Nick Suzuki, c'est un très mauvais but, probablement le plus mauvais but de la série. Celui quand Suzuki est arrivé à l'aile droite, a décoché un tir assez faible qui a trouvé son chemin. Dans le match d'hier, je pense que les deux buts du Canadien étaient des buts très francs. Même le but de Romanov, c'était un tir précis. Il y avait du trafic devant Vasilevskiy. Mais tu sais, Vasilevskiy a pas volé aucun de ces deux matchs-là. Même si Lightning en a gagné un. Fait que je pense que si Vasilevskiy remonte revient au niveau auquel est capable, et si l'avantage numérique se dégêne, le Lightning a pas des gros ajustements à faire pour closer cette série-là, si on permet l'expression.
Parce que moi, je vais vous dire une chose, je suis convaincu que Lightning de Tampa Bay pense qu'ils vont remporter la Coupe cette année. Ça, c'est clair, net et précis, parce que hier, John Cooper, après le match, a dit, c'était peut-être le destin de retourner à la maison pour gagner ça à domicile. Tu sais, les gars... Mais je me suis dit, et John Cooper est un orateur exceptionnel, puis tu sais, contrôle bien son message, puis je me suis dit, tu peux penser ça, mais quand tu vois que Price est de retour, tu sais, il était sous la barre des 900 d'efficacité dans les trois premiers matchs, là, hier, il était extrêmement solide. Je te dis, oups, tu sais, peut-être qu'il faudra faire attention pour pas se faire jouer un tour. C'est la façon, moi, que je peux le percevoir, tu sais, on est confiant, mais il faudrait pas l'échapper, parce que ça pourrait devenir compliqué. Michael, t'en penses quoi?
Ah, c'est sûr, mais moi, je par rapport aux performances du Lightning, je suis plutôt d'accord avec tout le monde, là, dans le sens que le Lightning joue, c'est un style de jeu, c'est pas tellement différent de ce qu'ils ont connu à date depuis le début des séries. Là. C'est comme ça, quand on regarde le genre de séries qu'ils ont joué contre les Islanders, par exemple, ça ressemble un peu à ça. C'est une équipe qui te fait mal dans les moments où est-ce que t'as peut-être un égarement et tout ça. Dans le cas de Cooper, tu sais, bon, écoute, il joue ses cartes comme il veut. Est-ce qu'ils ont pensé longtemps pendant les deux journées de congé à la Coupe Stanley, puis à la possibilité de gagner à Montréal, puis de finir ça tout de suite, après ça, de retourner chez eux? Tu sais, rendu là, on tombe dans un scénario de c'est quand on gagne, ça va être le meilleur moment de
mais,
gagner.
Mais attends, je veux juste arrêter un instant, parce que en point de presse, avant le match d'hier, en point de presse, John Cooper a dit, tu sais, l'an passé, j'ai fait une erreur face aux Stars de Dallas, j'avais les mauvaises pensées. Dans la journée du match où on pouvait éliminer Dallas, je me suis mis à imaginer ce que c'était remporter la Coupe Stanley, quelles étaient pour être les conséquences. Cette année, j'ai appris, excusez-moi, là, s'il est tombé dans le même panneau, il s'est fait jouer un tour, là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, ils peuvent dire ça publiquement, là, mais tu sais, quel joueur qui a l'occasion de gagner la Coupe Stanley la journée même pense pas à ça, là. Moi, je comprends là que on a affaire avec des athlètes de pointe, puis qu'on y va dans le moment présent et tout ça, mais tu sais, écoute là, c'est quand même pas rien. En tout cas, je sais pas ce que les autres en pensent. Moi, je suis pas je pense que là on est plus dans la communication que réellement dans le plan de match, mais ça, c'est mon opinion bien personnelle.
OK, juste un petit tour de table rapide là. Guillaume, je commence avec toi rapidement. Penses-tu que Tampa Bay est au-dessus de ses affaires?
Non, j'irais pas dire ça. Je pense qu'il faut pas mélanger l'image que projette justement John Cooper avec ce qu'on voit sur la patinoire. John Cooper, oubliez pas que c'est un avocat de formation qui a absolument aucun problème à se présenter et à livrer un message et à livrer de la façon la plus sympathique possible ou peu importe le mode de communication qu'il va adopter là, mais je veux dire il est très 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 fort comme communicateur, donc tu sais je veux pas trop interpréter à partir des points de presse de John Cooper, à partir de ce qu'il dit, de comment il dit tout ça, donc non, ça me semble pas être une équipe pour toutes ces affaires, puis tu sais je même si ça n'a pas été parfait, ça demeure quand même une équipe. Là. C'est pas comme s'ils avaient donné la victoire aux Canadiens. Je pense que c'est une équipe que si elle répète cette façon, ce type de match-là, ils n'en perdront pas 4 de suite.
Simon-Olivier?
Je pense que je suis un petit peu mitigé en fait entre l'avant et l'après le match. Dans le sens où hier matin, je pense pas juste à Cooper, je pense aux joueurs aussi. Hier matin, c'est Pat Maroon qui David Savard qui sont adressés aux médias. Énormément de calme. Pat Maroon, du gars qui en a vu d'autres, David Savard, malgré que c'est sa première finale à la Coupe Stanley, je pense qu'on on sentait qu'on était en contrôle puis on savait de quoi on était capable. Après le match, faut savoir pour les gens qui regardent pas religieusement chaque point de presse, pendant la finale de la Coupe Stanley, chaque équipe sort 4 joueurs disponibles pour les médias. L'année, il en a sorti 2. Il n'y a pas eu d'aucune explication. Je pense qu'on était très en colère d'avoir échappé à ce match-là. Et je pense que peut-être, justement, il y a eu cette idée-là de dire, ouais, ben, on va peut-être faire nos devoirs pour être dans un état d'esprit un peu plus affûté. Puis, tu sais, pour le reste, ce que Michael évoquait tantôt, je suis d'accord avec lui, dans la mesure où, ben, c'est sûr que tous les gars, hier, ça leur a passé par la tête de dire, hey, peut-être que ce soir, on soulève la coupe. En plus que c'est une équipe qui risque de perdre des bons éléments pendant l'été, qui risque d'avoir un look différent à l'automne. Je pense que c'est juste humain. Et tu sais quand même puis de l'autre côté, c'est vrai dans les deux camps, les joueurs du Canadien qui disent on pense pas à long terme, on pense juste au prochain match. C'est 0-3 dans la série là. Tu sais c'est bien beau de penser il faut gagner lundi, mais les gars là, ils ont bien beau ne pas penser à la montagne comme le disait Dominique Ducharme, mais il y a voix là. Fait que tu sais je pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça de théâtre là, pour justement montrer qu'on est au-dessus de tout ça puis que tout va bien puis un peu de réalité justement de un peu d'humanité dans tout ça aussi dans le fond, qui est très normal.
Mais j'ai l'impression que c'est plus facile de se concentrer quand t'es de l'arrière 0-3 en disant « je vais prendre ça un match à la fois » que t'empêcher d'imaginer que tu remportes une Coupe Stanley. Faut vraiment que tu sois fort. Comme Kael le dit, faut que tu sois fort mentalement pour être capable de te bloquer de ça. Parce que veux pas, c'est positif, c'est le bonheur. C'est une deuxième Coupe Stanley de suite. T'sais. C'est facile de tomber dans le panneau. Maintenant, d'après moi, ils ont pris une autre leçon puis ils vont faire en sorte d'éviter cette situation-là. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants parce qu'on doit laisser filer Guillaume Lefrançois parce qu'il va couvrir le point de presse de la mairesse de Tampa qui est à la base de la victoire du Canadien hier. peut-être, Guillaume, explique aux gens qu'est-ce que la mairesse a dit et pourquoi tu vas au point de presse aujourd'hui.
En fait, ce qu'elle a dit, la mairesse, c'était qu'elle souhaitait que le Lightning perde le match numéro 4 afin de pouvoir gagner la Coupe Stanley à domicile à Tampa Bay. Puis ça, c'est drôle d'ailleurs parce que ce matin, j'ai posé la question à Ryan McDonough. Je lui ai demandé s'il y avait eu vent des propos de la mairesse, puis il a dit que non, parce qu'il dit que les nouvelles de Tampa Bay sont pas couvertes à Montréal, puis ça m'a un peu fait rire, parce qu'il parlait comme quelqu'un qui lit seulement ses nouvelles dans un journal en papier devant chez lui. Donc oui, il y a ça quand même qui est intéressant, mais aussi évidemment avec justement la venue de la tempête tropicale ou de l'ouragan Elsa, là, à voir dans quel état il sera quand tu m'arrives ici. Ben ça aussi il y a quand même des implications possibles sur le match de demain. Donc ça fait plusieurs bonnes raisons d'aller écouter la mairesse Jane Caster là, de Tampa Bay.
OK, messieurs, donc on va faire une pause, on va aller aux questions du public au retour. Guillaume sera parti pour couvrir la conférence de presse de la mairesse, mais je prends encore un petit 30 secondes pour faire un tour de table rapide. Selon vous, et je commence avec Michael, est-ce que le Lightning de Tampa Bay gagne la Coupe Stanley dans le match numéro 5, celui de demain? Michael, on commence avec toi. Est-ce que le Lightning gagne la Coupe Stanley?
Oui.
OK. Simon-Olivier Larange, est-ce que le Lightning gagne la Coupe Stanley?
Oui.
Guillaume Lefrançois, est-ce que le Lightning gagne la Coupe Stanley?
Bon, ben juste pour pas être plate, je vais dire non d'abord. Puis ça va, ils vont gagner ça à Montréal dans un sixième match comme l'année McDonald en 89.
OK, parfait. Jérémy Réville, est-ce que le Lightning gagne la Coupe Stanley? La réponse est non. Est-ce que le Lightning va gagner le match numéro 6 à Montréal? La réponse est non. Et est-ce qu'on va aller dans un match numéro 7? La réponse est oui. Bon, mais sur ce, on vient de partir le feu d'artifice. On vous laisse aller, Monsieur Lefrançois. Merci d'avoir été avec nous. On fait une courte pause. Restez avec nous. On est de retour à cet épisode 50 de Sortie de zone. On est en troisième période. C'est le temps des questions du public. Avec nous, Simon-Olivier Larange de La Presse, Michael Lalancette. Messieurs, je commence avec une question que je répondrai et je vais vous entendre là-dessus. Ok, c'est Dops, peut-être que je l'ai mal écrit, mais Dops, qui nous envoie un message et nous pose la question qui est fort sympathique. Weber, et là je vais la jouer un peu, je vais mettre du théâtre dedans. Weber est-il malade? Il cherche juste à blesser les joueurs. Et là, juste vous dire une chose, c'est que Shea Weber a été acquis par le Canadien de Montréal pour ça. C'est ça qu'on veut de Shea Weber. Pas qu'il blesse les joueurs, évidemment, mais avoir une présence physique comme ça et être le gars montagne qu'on appelle puis que tout le monde attendait. Eh ben là, vous avez la version, jusqu'à maintenant, là, peut-être un peu plus jeune aurait été la meilleure version, mais vous avez une bonne version de Shea Weber. Ça ressemble à ça et c'est pour ça que le Canadien de Montréal a fait l'acquisition de Shea Weber. Messieurs, est-ce que vous êtes décontenancés de l'intensité de Shea Weber? Est-ce que ça fait votre bonheur ou ça vous choque un peu, Simon-Olivier?
Ben moi ça fait c'est des questions toujours un peu compliquées dans la mesure où tu sais comme on n'est pas des partisans, ça pas à faire mon bonheur ou pas, mais moi ce que j'aime pas de chez Weber, c'est quand je vois Weber donner des doubles échecs partout devant le filet, voir Weber sortir le bâton parce qu'il est en retard sur un joueur dans sa couverture, voir Weber un peu dépasser quand ça va trop vite. Je trouve que c'est le chez Weber justement qu'on voit vieillir puis que les partisans trouvent qu'il est trop cher, etc. Le chez Weber que j'ai vu dans le match numéro 4, c'est le chez Weber qui, à mon sens, incarne le capitaine du Canadien, qui est arrivé, qui s'est présenté dans un match aussi important que ça, puis qu'il a sorti son gros gabarit, puis il a dit ben ce soir ça passe pas dans notre territoire. Puis tantôt on en a parlé plus tôt de Braden Point, ils ont beaucoup de très bons joueurs, le Lightning, mais leur meilleur joueur, c'est Kucherov et Point. Puis Point, le long de la bande, Weber a décidé que ça passait pas. Et le message a passé. Puis moi, je veux dire, je suis à 100% avec ça. Je pense que j'ai pas vu de coup pour blesser. Il y avait eu une sur Point qui était un petit peu tardive parce que Point avait subi une mise en échec juste dans la seconde précédente. Je pense pas qu'il avait l'intention de blesser, mais pour revenir au commentaire de l'internaute qui était « Est-ce que Weber est malade? Il veut blesser des joueurs? » J'ai pas vu ça du tout. J'ai vu un Weber qui voulait être intimidant dans le sens le plus positif du terme au hockey et qui, s'il continue comme ça dans la série, peut juste aider le Canadien.
Michael, de ton côté?
Ben écoute, moi je sais pas si Monsieur Dops regarde les séries de la Coupe Stanley, regardait les séries de la Coupe Stanley avant cette série-là, puis avant les autres séries excluant le Canadien, là, mais je veux dire, c'est le jeu qui se joue dans les séries de la Coupe Stanley, dans les séries de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, moi, si c'était de moi, il y a des fois que je me dis que ça dépasse la ligne, puis je pense qu'il y aurait tout intérêt, la Ligue nationale aurait tout intérêt à être un petit peu plus sévère sur les coups qui peuvent blesser, tout ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'on tolère dans les séries. Donc, il joue à l'intérieur de ça. Il y a des fois qu'il dépasse cette ligne-là. Écoute, seulement au gabarit, à la force physique qu'il y a, ça déménage. C'est pas trop long qu'un coup d'épaule, puis il peut vraiment blesser un adversaire, mais c'est toléré. Puis c'est pas mal dans les limites. Il s'en tient pas mal à ce qu'on tolère aux quatre coins de la ligue. Alors non, moi je suis pas plus offusqué que ça.
Parfait. Dernière question du public, Louis-Éric Mongrain, qui dit: quels seront les trois défenseurs que le Canadien protégera au repêchage d'expansion, pardon, et est-ce que Bergevin sera actif pour ne pas perdre de joueurs? Là, faut expliquer que le repêchage d'expansion aura lieu le 21 juillet, donc c'est dans une quinzaine de jours, et ce qu'on doit faire absolument, c'est qu'il y a deux formules, soit qu'on protège 7 attaquants, 3 défenseurs, un gardien de but, ou 8 patineurs et un gardien. Donc, t'es obligé d'exposer, de permettre à la nouvelle franchise du Kraken de Seattle de venir chercher des joueurs dans ta formation. Maintenant, pour les défenseurs, en fait, les joueurs qui seront exemptés, là, on enlève tous les joueurs autonomes. Ça, en partant, il y en a une quantité industrielle. Là, si on parle d'Armia, Philippe Dano, etc., Corey Perry, Rick Stahl, c'est des joueurs qui deviendront, et Tatar également, joueurs qui deviendront joueurs autonomes. Il y a des joueurs qui sont exemptés, donc ceux qui sont à la première, deuxième année, entre autres Cole Caulfield, Suzuki, Romanov, eux ne peuvent pas être dans ce repêchage. Maintenant, selon moi, puis je vais me lancer, dites-moi ce que vous en pensez. D'après moi, le Canadien va protéger Weber, Petrie, Edmundson. Pas mal sûr que ça ressemble à ça. Sherrod devrait être exposé. Est-ce que ça sera Sherrod ou Edmundson? Qu'est-ce que vous en pensez, Simon-Olivier?
Moi, je pense qu'on va protéger... En fait, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils protègent Jeff Petrie parce que Petrie a une clause de non-mouvement. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de le protéger contractuellement. Fait que Petrie, c'est réglé. Edmundson, je pense, est devenu un incontournable chez le Canadien. Je le trouve personnellement plus polyvalent que Ben Chiarot, plus jeune également. Je pense qu'il y a peut-être une meilleure vision du jeu, peut-être plus responsable dans sa zone. Moi, dans ma conception des choses, Edmonton est devenu un incontournable. Là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ça va être est-ce qu'on va jouer de stratégie ou pas? C'est-à-dire que je sais pas quelle évaluation on fait de Ben Chiarot à l'interne, mais est-ce qu'on pourrait être tenté d'exposer Shea Weber, qui est pas très attrayant vu son salaire très, très lourd, et peut-être qu'on pourrait faire un deal à côté pour justement ne pas le perdre, ou carrément on va exposer Chiarot en croisant peut-être les doigts que Seattle a plutôt pour un Jake Allen.
On peut faire un deal, avec le Kraken pour éviter que Chiarot soit repêché, là.
Moi, en ce qui me concerne, dans le top 4 du Canadien actuel, Chiarot est le défenseur qui peut-être me m'emballe le moins. Je trouve que c'est un gars qui a donné beaucoup à sa première saison, moins à sa deuxième. Je le trouve inconstant. Je trouve que des fois, les soirs où il joue bien, je pense que c'est un très bon défenseur. Ses soirées ordinaires, je pense que c'est un pas très bon défenseur.
Oh, justement, c'est pas la rondelle de sortir la rondelle de son territoire. Je suis pas d'accord avec toi, ça n'a pas de bon sens.
Moi, la série contre Toronto, là, des soirs, là, je trouvais ça enrageant de le voir prisonnier de son territoire parce qu'il était pas capable de sortir de la rondelle et je voyais pas ça de ses coéquipiers.
Ben ouais,
fait que moi, en tout cas, dans le top 4, c'est le quatrième de 4 dans ma conception des choses.
Bon, OK. D'abord, Michael, viens trancher tout ça. Là. Dis-moi ce que t'en penses.
Ben, écoute, je vais pas te faire de peine, mais moi non plus. Moi, Chiarot, non, j'ai on a donné, puis je pense que le Canadien a tout intérêt à passer à autre chose. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Bon, en fait, je sais pas, ça autre chose, je sais pas, là, mais... on verra qu'est-ce que fera Seattle. Mais j'ai hâte de voir. Tu sais, Weber, il y a le scénario, c'est vrai, de faire un deal, tout ça. Mais ça serait, tu sais, du point de vue communicationnel, là.
C'est le capitaine du Canadien, oublie ça.
C'est ça. Puis, tu sais, pour ce qu'il a représenté avec la dernière année que le Canadien vient d'avoir, j'y crois pas tant. Mais non, écoute, Edmondson, pour moi, c'est le gars que je veux garder entre les deux.
Bon, ben voilà la question de Louis-Éric Mongrain, amener quelques passions.
Défends Ben Chiarot, mon ami Jérémy.
Ben Chiarot fait partie, à mon avis, du duo le plus solide. Je parle solide physiquement que le Canadien a besoin. Edmondson s'est révélé solide là dans cette série-là contre Tampa Bay. Il a été un peu contre Vegas également. Mais Edmondson patine bien avec Jeff Petrie. Petrie commence à retrouver un certain rythme d'aller, mais c'était très difficile par moment. Puis sincèrement, t'as besoin du top 4 pour être solide défensivement devant Carey Price. Fait que donc, pour moi, c'est un incontournable. Tu dois accepter les mauvais côtés de Ben Chiarot pour obtenir les bons côtés de Ben Chiarot, qui est d'ailleurs plus mobile que chez Weber, qui patine plus avec la rondelle, mais qui par moment tente peut-être un petit peu trop d'aller à l'attaque. Mais ceci étant dit, moi, je pense que ça, c'est 4 gars que tu as besoin de garder si tu veux connaître du succès chez le Canadien de Montréal. Puis en plus, c'est des gros messieurs. Puis quand t'as des petits messieurs à l'attaque, t'as besoin de gros messieurs, moi, je pense.
Mais sais-tu quoi? Je suis assez d'accord avec toi, mais là, il faut faire des choix, tu comprends? Fait que c'est comme...
Mais t'as des choix repêchage, mon cher ami Michael. Donne des choix repêchage, fais quelque chose.
Moi, je pense que Chiarot, ce qui pourrait le servir mieux, c'est, puis là, ne t'en déplaise, Jérémy, c'est de plus jouer avec Shea Weber. J'ai trouvé que Chiarot a eu des bons flashs cette saison quand il était employé à droite avec d'autres défenseurs, notamment avec Romanov. Il y avait eu quelques bons matchs. Je pense que ça pourrait régler le problème du Canadien, justement, d'avoir un défenseur droitier sur sa troisième paire. Et je pense que si le Canadien dénichait un vrai défenseur gaucher, que ce soit dans une autre organisation ou à l'interne, pour compléter sa première paire, ben là, je pense que ça change toute la dynamique. Chiarot, ça change son rôle également. Il devient plus seulement un duo avec Weber ou peut-être de deux gars moins mobiles. Et tout à coup, il devient un défenseur plus en soutien qui assure la présence physique avec un défenseur plus offensif. Moi, c'est peut-être que je ferais plus la paix avec Ben Chiarot à ce moment-là.
Bon, ben écoute, on aura assurément un autre épisode de Sortie Zone pour poursuivre cette conversation. Bon, ben messieurs, je vous remercie énormément. On va voir au courant de la semaine là un prochain épisode de Sortie de Zone en fonction des événements également, si le Canadien poursuit ou non. Si le Lightning gagne le prochain match, il y aura bilan de fin de saison chez le Canadien de Montréal et là, on pourra s'adapter en conséquence. Donc, restez à l'affût pour le prochain épisode. Michael Lalancette, merci d'avoir été avec nous.
Plaisir.
Simon-Olivier Laurent de La Presse, merci d'avoir été là, Simon-Olivier.
Merci à toi, Jérémy.
Un gros merci à Claude Hébert qui est à la mise en onde et en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite bon match numéro 5 entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay.